Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Oui, alors on démarre par un jeu.
D'accord.
Pour savoir qui lance l'émission. Là, je propose que tu dises un mot et c'est le premier qui trouve une chanson contenant ce mot qui gagne.
Waouh ! Je dis le mot chanson.
Et c'est une chanson qui nous ressemble.
En tout cas, c'est pas François qui a gagné.
Bon, bah là, on peut dire que François a perdu.
Le mot chanson est arrivé plus vite chez Juliette, mais t'as commencé plus vite la chanson.
Ouais, parce que
du coup, je sais pas quand.
Bah, on dit que c'est François qui a perdu. Et
ah,
c'est François
sûr
qui va lancer les.
C'est François qui a perdu.
La Fabrique, saison 2, épisode 2. Notre invité, Alex Vizorek. Et bien sûr avec Ramzi Assadi, Juliette Arnaud et moi-même, François Audouin.
Pas mal.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans La Fabrique, le podcast consacré à la création avec Juliette Arnaud. Bonjour Juliette.
Bonjour Ramzi.
Bonjour Juliette.
Juliette Arnaud.
Non.
Comédienne.
Allez, ça suffit,
comédienne,
cette présentation.
Auteur,
scénariste,
écrivaine, réalisatrice,
voilà.
Metteuse en scène.
François Audouin.
Ouais, salut.
Réalisateur radio, comédien, scénariste aussi, auteur. Et notre invité, Alex Vizorek. Bonjour.
Bonjour à tous.
Tu vas bien?
Très content. On se tutoie chez vous?
Oui.
Oui.
C'est plus honnête. Hein,
ouais,
oui.
C'est un podcast.
Juliette, j'ai dû la vous voyez. Vous deux, jamais.
Allez.
Mais quand elle est venue comme invitée.
Même en chroniqueuse. Hein.
Mais quand on est en
à l'antenne, oui, c'est vrai. Mais oui, mais en fait, c'est un vous qui veut dire tu. Mais la première fois, quand je t'ai rencontré, vous voyez, c'est sûr.
Ah oui, c'est sûr. Ouais.
Vas-y, Juliette, t'as une petite question, ta petite question rituelle sur.
Ah oui. Comment est-ce que tu qui ou quoi a fait que tu t'es senti autorisée à envisager de pas faire une carrière? La carrière qui était attendue de toi, puisque tu étais en école de commerce.
Carrément.
Et donc, est-ce que c'est quelqu'un? Est-ce que c'est quelque chose?
Non, c'est... Alors, ce sera très prétentieux de dire que c'est divin, parce que je ne sais pas si elle existe, mais...
T'as dit elle?
Non, j'ai pas dit elle.
Je te jure, j'ai cru que tu disais. Je sais pas si c'est divin, je ne sais pas si elle existe. Et je me suis dit, oh mon Dieu!
Ah bah, ça me... Franchement, il y a trop de conneries sur Terre pour que ce soit une femme qui soit Dieu.
Ok, ça on le prend et hop, c'est bon.
Malheureusement, okay. Ça sent okay. Que c'est quand même
donc on en
gestion
était...
masculine
des
de
choses.
La divination.
Ouais.
En revanche, quand je dis divin, c'est extrêmement prétentieux, mais c'est qu'à un moment, c'est venu de l'extérieur par l'expérience. C'est-à-dire que j'ai fait école de commerce parce qu'à 18 ans, je ne savais pas trop quoi faire et je pensais... un peu instinctivement que je ne savais pas me jauger. Je ne savais pas si j'étais quelqu'un d'intelligent, je ne savais pas si j'étais quelqu'un qui allait servir. Non, enfin, tu me fais des grands yeux, genre... non.
Parce que je crois que c'est la première fois que j'entends qui que ce soit me dire « je ne savais pas si j'étais quelqu'un d'intelligent bah, ». Je trouve ça très honnête, mais...
Par rapport aux autres, j'étais incapable de me juger. Par rapport à moi-même, j'avais l'impression d'être...
Mais tu te comparais quand même en école de commerce sur les notes ou sur les choses comme
alors,
ça.
Alors, ça, c'est arrivé une fois que j'y suis allé.
Ah, ok.
Mais dans un premier temps, j'étais très bon élève sur ce qu'en Belgique on appelle les primaires, donc jusqu'à la 6... Comment vous comptez en...
Au collège.
Ouais, tu peux dire avec l'âge.
Les 6 premières années. Les 6 premières années. Jusqu'à mes 12 ans. L'école primaire. Et puis on passe dans ce qu'on appelle les humanités.
Le collège pour nous.
Voilà. Et là, c'est plus le même prof tout le temps. Donc, t'as un prof de maths, un prof d'histoire, ça. Et donc là, on fait 6 années comme ça. Et là, j'étais assez moyen. J'avais 70%, on va dire. Alors que j'avais toujours fait 90 quand j'étais plus jeune. Ça, tout me semblait assez facile.
D'accord. Ouais, donc, j'avais en gros. Alors, le seul chez nous, c'est 12-13 de notes. Quoi,
et le seul truc qui m'a semblé très compliqué, parce que comme je venais du néerlandais, c'était les dictées. C'est pourquoi à un moment j'ai soutenu, mécénisé un spectacle sur l'orthographe que je mécénise toujours, qui s'appelle La Convivialité, qui m'a fait comprendre à 35 ans quand je l'ai vu, ou 38 ans quand je l'ai vu, qu'en fait c'était pas grave, que c'était pas une science exacte et que c'était un peu, je crois que c'est Stendhal qui dit que c'est la science des idiots, l'orthographe, et ça m'a bien détendu. Mais donc ça, là, sur ce
moi coup, je suis d'accord aussi.
Le monde avait fait que je m'étais jugé bête.
Donc ça faisait un moment, depuis que tu étais adolescent, qu'en fait tu avais un petit doute sur ton intelligence.
Ben, quand tu as 70%, 70, tu te retrouves au milieu, t'es pas le premier de la classe.
Tu peux aussi penser que les notes, ça reflète pas l'intelligence.
C'était ce que j'avais de plus.
Bah c'est pour, mais c'est pas une critique, c'est notre seul truc de.
Ouais, c'était mon référent. Mais je vois ce que tu veux dire. Hein. T'as raison.
Et puis la société, l'environnement nous évolue comme ça.
D'imaginer, mais à un moment il faut trouver. Enfin, moi j'aime bien les chiffres, et à un moment il faut trouver une échelle. Après moi. Si on m'avait, par exemple, jugé sur le nombre de chanteurs français qui passaient à la chanson, j'aurais été premier de ma classe. Et je me serais sans doute trouvé très intelligent. Mais c'était non plus pas une bonne échelle. Et donc, je trouve que c'est la moins mauvaise des échelles que celle des points. Mais effectivement, l'avenir a prouvé qu'on peut s'en sortir avec d'autres qualités qu'on ne développe pas spécialement toujours dans le système éducatif comme il est là, en tout cas en Belgique ou en France. Et donc, je me dis... Et là, quand même, est-ce que c'est parce que je suis un homme? Est-ce que c'est parce que je suis de bonne famille? Est-ce que c'est... je me dis, en fait, l'excellence, je ne sais pas, mais peut-être que c'est pour moi. Et donc, je me dis, je prends le truc le plus dur.
L'école de commerce.
Alors, il y avait 4 choix, en tout cas de mon époque. Et on verra. Si je rate, je rate, mais au moins je saurai. Et je sais que je ne remonterai pas. C'est-à-dire, si je prends un truc facile, je sais que je serai content de réussir sur ce truc facile, mais je
ne tirerai pas au niveau dessus.
Exactement. Et donc, les 4 trucs qui étaient un peu l'élite, c'était médecine, droit, polytech et Solvay, qui était école de commerce. Médecine, ça, je crois qu'il faut vraiment une vocation que je n'avais pas. Droit, c'est trop de lettres. Polytech, c'est trop de chiffres. Donc j'ai pris celui qui me semblait par exclusion, ce qui me semblait le plus logique et vogue la galère. Et puis on m'avait dit c'est celui qui va te former le mieux l'esprit, et puis même si tu veux pas faire complètement ça, c'est le plus ouvert. Si t'es un médecin formidable, t'es quand même assez voué à faire médecine. Et donc je me suis inscrit là, et j'étais de nouveau pas un bon élève, mais j'avais ce 60%. Qui me permettait, et des gens qui étaient brillants en humanité se sont retrouvés à être mauvais. Et moi, je suis passé, j'avais 5 ou 6 examens de passage, vous appelez ça rattrapage, je crois. Donc franchement, je suis passé ric-rac. Donc on est 800 à commencer, il y en a 200 qui passent, j'ai dû être 186e. Tu regardes le nom, tu vois. J'ai l'habitude de regarder en bas de la liste, parce que moi j'ai un W, mais là c'était par ordre de points. Non, c'est pas moi. Et tu vois le rouge arriver, tu vois, et puis maman. Et réflexe d'appeler tes parents, parce qu'en fait tu le fais pour eux. En fait, ils m'ont payé mon année. C'est-à-dire qu'évidemment, je faisais des très petits jobs, mais je peux pas dire que j'avais besoin de bosser. Ma mère elle me dit le deal. Tant que tu réussis, on t'aide. Donc j'étais content de réussir. Toutes les années se sont passées comme ça. J'ai jamais été bon. Je crois que je dois avoir un record sur cette école de commerce. 5 années, 5 fois du rattrapage, mais jamais raté. C'est-à-dire que t'en as qui ont raté en première. et qui ont compris comment ça marchait et ont fait 80% ouais. après. Et t'en as qui rataient toutes les années, t'en as qui rataient, la majorité ratait et allait dans des choses
ailleurs,
sans doute plus adaptées ou plus faciles pour eux. Et donc moi j'ai réussi toutes les années en étant, et j'ai fini dernier de promotion.
Et mais non.
Si, au moment d'appeler.
Ouais, mais avec le diplôme en poche.
Oui, il faut bien, quelqu'un soit dernier.
Il faut
dernier.
Bien qu'il y ait un dernier.
Eh ben.
Et Graal un peu de ma part, 10 ans plus tard, je commence un peu ce métier. Enfin, non, j'existe déjà en Belgique. Et c'est pas l'école, c'est les étudiants qui demandent à ce que, comme aux États-Unis, il y ait une personnalité qui vienne faire un discours en plus des professeurs installés. Et je me retrouve devant l'amphithéâtre. Ils avaient commencé, parce que de mon temps, il n'y avait pas, mais ils avaient commencé à le faire à l'américaine. Donc, ils avaient des chapeaux, un peu comme des marteaux, mmh. on lance et tout. Moi, je trouvais ça ridicule. Enfin, on peut prendre des trucs américains, mais. Qui suis-je pour critiquer la méthode de Gad Elmaleh ? mais en l'occurrence, là, ça me semblait un peu étrange. Et donc, je suis même pas.
Ils font appel à toi pour faire.
Oui, pour un discours. Et je crois que.
Mais ça ressemble pas un peu au dîner de compte, ça ?
Très mal filmé. Bah. Et au final, je m'en suis bien tiré parce que je t'expliquais le truc. Mais non, je crois qu'ils étaient contents parce que justement,
ouais, parce
c'est
que
quelqu'un
le mec
qui avait fait autre chose.
Ouais, okay.
J'étais dans les chemins de traverse de ces études-là. Et 10 ans après, déjà, de mon temps, c'était pas la certitude qu'en sortant de cette école, qui est quand même la meilleure à Bruxelles et de Belgique sans doute, du temps de 10 ans avant moi, tout le monde trouvait du travail. On venait les chercher en quatrième ouais. année, ils faisaient leur cinquième, presque payés par la boîte. De mon temps, oui, c'était très facile pour trouver un travail par rapport à d'autres études, mais le dernier de promotion, c'est pas toujours celui à qui on... Bon, oui. Personne m'a appelé. Si, on m'a envoyé des lettres pour faire les entretiens d'embauche, mais bon, je n'ai jamais fait. Et je fais ce discours juste après, c'est peut-être un peu mon rejet du capitalisme, un des patrons du Bel 20, ce qui est l'équivalent du CAC 40. Qui donc lui aussi avait fait cette école, mais qui avait plutôt 70 ans, qui était patron de je ne sais quelle entreprise. Et il vient comme ça, de manière très solennelle, expliquer. Mais devant, je te dis, il y avait 2000 personnes, c'est les parents, les. Tiens. Et très sûr, il dit oui, une entreprise, c'est comme un marteau. Je m'en souviens tellement. Il dit et si vous avez réussi ici, c'est que vous êtes cette tête en fer qui sera très importante et primordiale. Mais il ne faut jamais négliger tous ces gens qui sont le manche en bois. Et je vois bien que ça parle pas hyper fort à cette génération-là. Ça, il y a 70 ans, ça parlait sans doute. Et donc moi, j'arrive en disant, sachez que j'étais dernier de ma promotion et que j'ai toujours été fier d'être le dernier chez les meilleurs que d'être le premier chez les derniers. Donc je ne sais pas ce que ça fait à ceux qui viendront chercher leur diplôme en premier. Tant mieux pour vous, félicitations. Et j'ai fait quelques vannes, évidemment. Et puis, j'ai dit que j'étais fier d'avoir cette boîte à outils. Et je le pense encore aujourd'hui que les 5 années ont organisé mon cerveau pour plein de choses. Donc, j'ai rien fait qui m'a amusé, mais il y a des canaux qui ont dû se déboucher dans ma tête. Y compris celle de la confiance en soi. Et on y viendra pour répondre complètement à ta question.
Oui.
Parce que j'ai fait un peu de choses, hein, de ski hors piste.
C'est rapport à la confiance en soi.
Et on y vient après.
Et
ça, c'est vrai qu'à un moment, on t'explique que t'es le meilleur et que donc si tu sors de cette école, ben c'est que après tu peux tout faire. Tu finis par potentiellement le croire et en tout cas, tu comprends que si t'essayes et que t'apprends, probablement que tu peux faire des trucs que tu pensais pas pouvoir faire parce que tout s'apprend. J'ai fini par le constater ça. Et je dis bah j'aimerais quand même. J'ai passé cette espèce. À mon avis, c'est là que est née cette espèce de gauchisme. J'ai dit j'aimerais que. Tout à l'heure, il y en a un qui viendra chercher son diplôme en dernier, et j'aimerais que vous l'applaudissiez avec le même entrain d'aller applaudir le premier. Je me rassois, triomphe, grands applaudissements de partout, beaucoup plus que l'hôte et son marteau, et je me rassois à côté de lui, parce que j'ai envie de le regarder et faire « Eh mec, tu sais pas leur parler
!»« C'est un métier hein, !»«
T'es pas la tête en fer, mon gars !» Mais j'ai rien dit. Et au moment, mais une heure plus tard, parce que je suis un con, j'avais accepté ça, et donc ils font circuler tout le monde, machin. Quand le dernier passe, il arrive, il vient m'embrasser, et tout le monde se lève.
Oh,
c'était, mais j'étais franchement hyper ému de ce moment. Je trouvais ça hyper rigolo. Et donc, de confiance en soi, après, je me suis dit, bah, en fait, j'aime pas tout ce que j'ai appris. Pourquoi j'irais pas en journalisme? C'était sur le même campus, en Belgique, tout se passait à l'université de Bruxelles. Et alors, je pouvais sauter les deux premières années, parce qu'ils estimaient que j'avais compris ce qu'était l'université. Mmh. Et donc, il fallait faire les trucs qui vraiment étaient importants pour être journaliste. Je me suis beaucoup plus amusé. J'ai rencontré d'autres genres de gens. Mes amis, c'est pour ça, sont assez variés, parce qu'il y a ceux que j'ai rencontrés à l'école de commerce, ceux que j'ai rencontrés là, et puis ceux que j'ai rencontrés dans le métier. Et en journalisme, j'ai vraiment des super gens qui sont beaucoup plus variés, quelque part. Ne fût-ce que parce qu'ils n'ont pas pu tous faire journalisme, mais ils ont fait tous des choses très différentes, donc ils sont assez variés. Et j'ai eu le diplôme de journalisme et je me suis dit, mais est-ce que c'est complètement ce que j'ai envie de faire? Discuter un peu avec mes parents. Ma mère a dit, de toute façon, on est bien d'accord que tu ne feras pas banquier.
Mais là, du coup, t'as 38 ans, là, à ce moment-là.
Non. T'es loin, mais t'es pas loin. J'ai fait 5 ans d'école de commerce et sur les deux dernières, j'avais déjà cumulé avec le journalisme. Donc, en fait, je n'en avais plus qu'une à faire ici. Donc, 6 ans, ouais.
Donc, 24 ans.
Ah oui, mais 24 ans, quand t'arrives au cours Florent, ils ont tous 18 ans. Pour ceux qui l'ont, parce qu'il y en a qui ont 17. Donc,
oui, c'est vrai.
Et il y a une limite en plus, non? C'est 25?
Non, parce qu'ils ont rapport à l'argent, c'est pas très intéressant.
Il y a toujours un ou une soixantenaire.
Alors, moi, à chaque fois, ça a été une femme.
Moi aussi.
Voilà.
En l'occurrence, on l'embrasse, elle s'appelait Marie. Et elle était très, très carrée, elle venait, elle était. Bah, du coup, elle jouait plutôt les mères.
Comme ça, ça fait d'autres personnages.
Bah, c'était plus crédible qu'elle joue ma mère plutôt que la fille de 17 ans.
Pardon, oui, du coup, on a fini.
Non, pardon. Et donc, c'est pour ça.
À la fin du journaliste.
Je vais au cours Florent en me disant en fait tout ce que j'ai appris j'ai plus ou moins réussi à en faire quelque chose et j'étais pas nul, donc vas-y, apprenons ce que t'as vraiment envie. Et j'avais pas encore compris qu'à ce moment là ma grande force plus-value, sans quoi j'aurais jamais complètement fait ce métier, c'était d'écrire, parce que j'étais un comédien plutôt moyen, j'avais de nouveau 7 sur 10
Non mais sérieusement?
Oui,
mamie.
Y a des mecs qui étaient beaucoup plus forts que moi. Et
oui, mais...
je vous ai déjà raconté cette phrase de Florent, quand c'est à dire qu'en deuxième année il y a un truc qui s'appelle le tout seul, un exercice qui s'appelle le tout seul, tu prépares et donc tu choisis 5 ou 6 extraits de entre 30 secondes et 1 minute de personnages différents, de pièces différentes, d'époques différentes, et tu fais bout à bout. Et donc tu prends, tu fais 4 ou 10 vers de Cyrano, puis tu joues Perdican, et puis tu joues du Coltès, et bon, on reconnaît pas, mais peu importe, ça te permet de faire des choses différentes, de montrer que je sais, oui, c'est sûr que j'avais pris Cyrano, mais après je sais plus le reste. Et exceptionnellement, parce que Florent venait pas à tout, il y a beaucoup de classes, Julia, tu sais, il y a beaucoup de classes, et donc il vient pas à toutes les évaluations, c'est souvent ton professeur qui t'évalue, mais parfois il pointe comme ça, il s'assoit, il écoute, et franchement, on le voyait souvent dans les couloirs, mais c'est la première fois qu'il était là face à moi.
Pendant que tu jouais, c'est la première fois.
Ouais, c'est ça, donc quand Florent vient voir, on est tous là, on se dit, c'est le début, parce qu'il va appeler Chéreau en sortant.
Très clairement.
Il va dire, il y en a un, il est incroyable. Et il fait Cyrano. Je n'ai jamais vu
moi
ça.
Non plus, jamais.
Bon, ça ne s'est jamais vu arriver. Et donc, il note des trucs. Après, tout le monde se serre la main. Hein, le lendemain, recours, ton prof prend le bouquin et dit, moi, je vais vous dire ce que j'ai pensé moi. Je vais vous dire ce qu'il a écrit. Je ne vous cache pas que parfois je ne comprends pas toujours ce qu'il a écrit, mais je vais vous le dire texto, et si je peux aider à interpréter, on aidera à interpréter, machin. Et après c'est mon tour, nouveau ordre alphabétique, donc sans doute le dernier. Il dit, là, Alex, je vais te le livrer comme ça.
Je crains bien.
Je ne sais pas, c'est incompliqué. C'est ce qu'il a vu en te voyant. Et il avait écrit, c'est vrai, j'ai eu Florent comme invité dans une émission avec Charline, et je lui ai redemandé ce qu'il voulait dire. Lui-même m'a dit, je ne sais plus. C'est ce qui m'est venu quand je vous ai vu. Il a dit, je ne veux pas dire que je m'en souviens, je dis non, je ne vous en veux pas, il voit, je crois, 2000 étudiants par année. Il avait écrit, est très belge, point, à toutes les qualités d'un concierge de palace ostendais à qui... on a envie de raconter ces histoires de cul. Point.
Ah, carrément, il a écrit une nouvelle sur ce que tu lui as inspiré.
C'est la plus belle phrase qu'on ait écrite sur moi, je crois. Et ça n'a pas de sens.
Et t'as cherché cet emploi-là après dans les films?
Je crois que, parce que c'était ça. Tu vois, Castelli, dans les films avec Delon, avec Belmondo et Delon aussi, c'est souvent Castelli qui joue le mec devant, là, le concierge. Il y a Belmondo qui passe en bateau à Venise, je crois que c'est dans le Guidolo. Ça va, chambre combien? Il rentre dans le couloir en bateau. Je me suis dit, c'est pour moi. Et à ce moment-là, je me suis dit, je ferais peut-être un bon second rôle, tu auras un con avec 2-3 phrases. Ce qui est devenu un peu mon emploi dans Tchekhov, par exemple. Dans Tchekhov, il y a des super rôles de mecs qui souffrent. Jamais on m'a donné Ivanov, Platonov, tout ça. Mais il y a toujours un con derrière qui sert du thé pendant toute la pièce et qui, de temps en temps, dit une phrase philosophique. Et tout le monde se retourne, le regarde, fait, oui, Sergueï Alexovitch. Et moi, j'étais Sergueï Alexovitch avec mon samovar. Et j'étais fort bon là-dedans. Et alors, si on aime bien les références théâtre, la seule fois où j'ai vraiment été, je crois, bon en théâtre, c'était Shakespeare, La Nuit des Rois. Déjà, quand il a dit on va faire Shakespeare pendant 4 mois, moi je m'effondre. Moi j'adore tout ce qui est français. Je dis, mais non, écoutez, je vous en veux pas, je vais changer de classe. Parce que je Roméo et Juliette. Il me dit, mais non, fais-moi confiance, Shakespeare, c'est pas que ça. Je dis, ouais, mais bon, Hamlet. Mais non, il y a des comédies de Shakespeare. Je dis, ah bon, c'est vrai qu'on le sait pas trop, c'est comme Corneille, c'est pas instinctif qu'on pense à une comédie, quoi.
Non.
Il me dit, mais il y a des trucs marrants, il dit, lis ça. Et bon, bon élève, hein, je lis. C'est vrai que le personnage de La Nuit des Rois, c'est un mec qui se la pète, et il y a une scène fantastique où il rentre dans un bistrot et je sais pas, il est un peu en lambeaux et le gars lui dit qu'est-ce qui s'est passé, et il dit j'ai combattu toute l'armée et tant qu'il raconte l'histoire, ça monte, il dit ils étaient 20, et puis là je me retourne, je sors mon épée, c'était 400, et j'ai cette idée assez bonne, parce qu'on le joue en français, de lire la version en anglais et de rajouter les insultes et les phrases en anglais.
Ah.
Et donc, je m'étais acheté une épée de jouet. Je sais que vous aimez les jouets comme ça. Ouais,
on aime bien.
Où il y a un bouton. Et quand tu poussais sur le bouton, ça faisait gling, gling, gling. Oh, et donc.
Ça existe encore, tu crois, ce jouet?
Je crois que je l'ai toujours parce que c'est mon seul grand moment de théâtre classique. Et donc, j'arrive pour l'évaluation et je sors mon épée. J'ai dit, oh, bunch of cowards. Ce qui veut dire une troupe d'imbéciles. Et j'arrive et je fais gling, gling et je raconte le combat. Tout le monde pété de rire et moi hyper content et j'en rajoute, je cabotine évidemment. Déjà.
Allez,
je cabotinais. Et je suis sorti en disant putain, c'est bien ce Shakespeare quand même. Pas écrit que des merdes. Hein. Et donc c'est... Oui, mais c'est marrant, tout ça fait que ça te nourrit un peu, tu commences à piger ton. Et on y viendra sans doute, mais c'est vrai qu'il y a des emplois dans lesquels je suis assez bon. Enfin, c'est bon, je suis assez instinctif, le con qui est un peu prétentieux, des trucs comme ça.
J'ai vu cette semaine.
J'ai refait cette semaine. J'ai pensé à toi.
Ouais, tiens. Ouais, ouais.
C'est un de mes auteurs qui avait écrit une blague où il y avait du jeu où je devais passer pour un con.
Sur RTL.
Oui, sur RTL. C'est en fait ils avaient coupé un glacier pour la Coupe du Monde de ski. Et j'ai dit comme c'est dégueulasse ce type, c'est pas parce qu'il faisait des mauvaises boules à la pistache. Et effectivement, c'est une bête idée. Et donc la dame me dit, mais non, c'est un glacier. Oui, je dis, c'est un glacier quand même. Hein. C'est pas de raison. Hein, parce que c'est un glacier.
Il y a le truc du berger allemand à la fin.
J'ai rajouté
la petite cerise sur le gâteau.
On y viendra dans le travail. Mon auteur n'avait pas mis celle-là. Je dis, il manque d'une chute.
Ouais.
Et
dit, ah bah, c'est très bien trouvé.
Bon, voilà. Donc, tout ça fait qu'à un moment, on nous demande d'écrire aussi au cours Florent. Et il y a surtout cours de one-man show à un moment, Stéphanie Bataille. C'est la toute première fois qu'il donne des cours de one-man show. Il y a des grandes affiches dans Florent, Martin, si ça vous dit. Et on est une vingtaine à s'inscrire. Ça coûte 90 balles de plus. Mais tu me dis, allez, c'est marrant. Et pendant un mois, on a stage de one-man avec quelqu'un qui a marqué ma vie et sans qui je ne ferais pas ce métier aujourd'hui.
Attends, pardon, j'ai pas suivi.
Stéphanie Bataille, pardon.
Qui est prof, oui, qui est ma metteur en scène aujourd'hui, mais qui est professeur au cours Florent.
D'accord.
Pendant un mois. D'ailleurs, on me l'a demandé après de donner un stage, mais je ne peux pas faire un mois.
Alors moi, je ne la connais absolument pas. C'est une comédienne.
Non, c'est une metteur en scène, comédienne. Et elle a dirigé le Théâtre Antoine longtemps. Okay. Mais c'est quelqu'un de pédagogue. Et qui, du coup... Et elle n'avait pas cette angoisse. Tu parlais, Juliette, du fait qu'on paye à Florent et on paye par mois.
Oui.
Donc, les gens qui en ont marre, ils peuvent arrêter.
D'accord.
Donc,
les gens qui n'ont plus de sous.
Bien sûr. Mais là, il y a toujours moyen de trouver des solutions. C'est-à-dire que tu vas voir et tu dis... Écoutez, on peut étaler, ou on peut trouver une solution. Enfin, à l'époque, enfin, à mon époque, ça existait, c'était plutôt pas mal. Mais surtout, tu payes pas toute l'année. Donc, un prof qui serait très exigeant et qui engueulerait les élèves, et s'ils veulent tous partir au mois d'octobre, c'est pas bon pour. Et donc, du coup, les profs, parfois, passent un peu sur. Il y en a que tu as envie de virer de la classe très vite, mais tu peux pas. Ouais, ou pas tous, en tout cas. Et Stéphanie n'avait pas ce problème vu qu'on payait un mois, il y avait un mois. Donc, on a commencé à 22, on a fini à 12. Sur les 12, il y en a presque 5 qui ont fait le métier.
Ah oui, quand même.
Donc,
ah oui.
Ce qui n'est pas la moyenne habituelle des classes de Florent.
Ah bah non. C'est sûr, c'est pas la moyenne. Non, c'est vrai. Non, mais peut-être aussi parce que c'était très spécialisé. Mmh. Tu vois ce que je veux dire? On propose un truc où tout à coup, les gens qui t'arrivent pas. Moi, par exemple, j'aurais été au cours Florent à la même époque que toi. J'aurais vu une affiche pour faire un One Woman Show. Jamais de ma vie, j'y allais dans ce cours-là.
Je pense que tu aurais fait ça très bien, donc, d'ailleurs.
Mais... Oui, mais ça m'aurait. Enfin, j'aurais pas. C'était pas une image que j'avais de moi. Donc, on peut supposer que les gens comme toi qui y sont allés. Ils avaient déjà une espèce de...
Mais toi,
ils commençaient à s'approcher de l'idée, peut-être.
Ouais. Pourquoi qu'est-ce qui t'a poussé à y aller? C'est le fait d'avoir rire lors de...
Non, par exemple, Walter, qui était avec moi à ce moment-là, lui, il avait déjà dans l'idée que son travail de fin d'études, ce serait
le
one-man show. Il avait le titre, il avait préparé, d'accord. Il avait écrit.
Lui, il savait. Mais toi, t'es allé au théâtre comme ça.
Ouais, c'était moi j'adore, c'était La Biche, mon travail de fin d'études. Ouais. J'avais pris 3 pièces courtes de La Biche et je voulais monter ça parce que moi je t'ai venu plutôt pour faire du théâtre en fait.
Alors pourquoi tu t'es là?
Par
curiosité.
Curieux.
D'accord.
Et Florent vient voir parce que c'est la première classe, donc c'est 2 ans après mon coup de.
Il redit le standard.
Un concierge de stand.
Là, il fait dans l'ordre, il dit voilà, toi c'était bien ça, toi c'était bien ça. Il passe chez moi et il dit toi je reviendrai après. Et il fait les autres.
Ça se met en
question. Non, parce que je savais que ça avait été bon, si tu veux. Mais il me dit pourquoi il reviendra après, il va pas me donner. Il n'y avait pas de diplôme, il n'y avait pas de gagne, tu vois. Et puis donc il finit tout le monde. Et il revient et il dit je vous ai mis sur le côté parce que. Je le dis aux autres, c'est ce que j'ai vu de plus professionnel aujourd'hui. Et ce que j'ai vu là, ce sketch, c'était un sketch sur les auteurs japonais suicidaires.
Ah.
C'était sur les correspondances entre Mishima et Kawabata. Véridique, bouquin que j'avais trouvé chez Gibert, en me disant, bon Dieu, ils se sont suicidés tous les deux. Et c'était écrit pendant 20 ans. Peut-être ils ne se sont pas tirés vers le haut les deux.
ou alors peut-être, pendant 20 ans, ils ont survécu. Parce qu'ils pouvaient échanger l'un avec l'autre leurs idées morbides,
tout
Alex.
Tout à fait possible, Juliette, avec qui tu corresponds en ce moment? Attention.
Et c'est là que je ne le dis pas.
J'ai pas envie de lire des livres de toi chez Gibert. c'était flatteur. Et puis là, revient un peu en moi mes reflux d'école de commerce, me dire, mais en fait, si je suis bon là-dedans, autant rentabiliser ce dans quoi on est bon. Dans une entreprise, si tu as plusieurs branches...
Le pragmatisme
viserait. L'école du commerce.
100%. Mais j'adore.
Pragmatisme, moi, business plan.
100% pragmatisme. Et je déplore de pas... j'aurais adoré, en fait, si on m'avait dit, viens, on va jouer La Biche, on part en tournée, j'y serais allé. Mais par contre, j'ai constaté qu'être chef de troupe, ça, je ne sais pas faire. On était 6, c'est des gens qui sont encore mes amis aujourd'hui, mais diriger, je ne sais pas.
Avec d'autres comédiens.
Ah ouais,
mais
c'était
chiant. On en parlera tout à l'heure avec des auteurs, en revanche.
C'était moi le chef.
On en parlera.
Mais à l'époque, on se donnait des services, moi je jouais dans leur travail.
Enfin, oui, c'est ça.
Et je n'ai pas réussi à les conscientiser sur l'importance du mien. C'est conscientiser des acteurs, c'est un vrai métier, c'est un vrai effort. J'ai pas su faire ça. Et je me suis dit, en fait, déjà, c'est compliqué tout seul. Si en plus, il faut se coltiner les 5 autres. Et donc, le one-man show, c'est un peu pragmatisme posé à moi.
Alors, justement,
mais c'est parce que vous étiez tous au même niveau aussi, que vous étiez tous des acteurs qui débutiez.
Était là à l'école. Donc, en fait, quand tu montes un projet de fin d'études, tu prends les copains.
Aujourd'hui, si tu faisais. Si tu montais un truc,
peut-être,
je pense que tu peux être capable de. Diriger et d'avoir le truc de un peu de l'autorité sur
Oui, mais il parle pas de l'autorité là, Alex, il a dit conscientiser des acteurs, c'est pas exactement
c'est
ça.
C'est un mélange de tout ça. C'est un mélange de tout ça, mais ça en fait partie. Et il y a aujourd'hui, c'est sûr que j'aurai une autorité un peu plus naturelle avec des gens qui n'ont rien fait. Ils diront, il sait ce que c'est de jouer devant 500 personnes. Il l'a fait. Il sait ce que c'est écrire un texte. Il l'a fait. Mais au-delà de ça, est-ce que j'ai. Par contre, je suis content de faire partie de cela. Je vais jouer une pièce de théâtre en fin d'année et je suis content. Je vais regarder comment travaillent les autres, comment le metteur en scène va faire. Et tout ça m'intéresse.
D'accord, ok.
Et quand je vais faire peu de fois où j'ai fait du cinéma, je rentrais pas dans ma caravane,
je regardais
un peu bosser.
Mais comme quand elle est au cours de One Man, en fait, à chaque fois par curiosité.
Au cours Florent, tu passes plus de temps à regarder les autres jouer et à entendre le professeur leur donner des conseils que toi-même être sur scène.
Ouais.
Donc en fait.
Et halluciner de les voir ne pas arriver à faire des trucs.
c'est vrai.
Parce que
toi,
souvent, c'est ce que tu ressens.
Que tu as.
Oui, parce que toi, t'as d'autres problèmes. Mais tu les vois buter sur un truc. Moi, je me souviens d'un vers que j'arrivais jamais à dire de Marivaux qui commençait par Ah ça, Madame Sorbin.
Ah oui.
J'y suis jamais arrivée. Voilà, j'y suis jamais arrivée.
Et ceux dans la classe devaient dire, putain, Juliette.
Mais elle est débile. Oui. Mais elle est débile. Qu'est-ce que... Ah, ça, Madame Sorbonne. Mais j'y arrivais pas. Et je continuais à pas savoir dire.
Il y a du jugement, en fait, entre... Que ça ?
Non, il bon, y a beaucoup de bienveillance quand même. Hein,
non, parce non. Que, mais bon. C'est ce que tu penses à l'intérieur de toi. Oui, t'es pas en train d'invectiver oui, okay. le malheureux ou non. La malheureuse qui est
sur scène.
Et puis
tu sais que ce sera ton tour. Hein,
oui, c'est ça.
Mais par contre,
ça,
c'est très intéressant de voir comment tu te fais des nœuds. Comment, à partir du moment où t'es sur scène, t'arrives à te faire des nœuds dans la tête. Et tout à coup, tu n'arrives plus à faire une chose qui a l'air élémentaire et qui l'est sans doute. Mais tout à coup, sur scène, tu n'y arrives plus. Je voulais dire un truc par rapport au pragmatisme que je soulevais. Et dans ma bouche, c'est pas une...
Non, je ne l'ai pas vécu.
C'est comme pas un, je ne me moque pas, je trouve ça amusant et peu commun. Néanmoins, dans tout ce que tu as dit, tu as un récit sur toi assez pragmatique. Et il y a juste un moment, tu n'as pas fini une phrase, tu as dit, en tout cas c'était sûr, il y avait Cyrano de Bergerac.
Oui.
Et tu as cité deux fois Cyrano de Bergerac. Et c'est un personnage mythique de la...
Qui pour les autres.
De, oui. Voilà. Mais c'est un personnage compliqué, Cyrano, parce qu'on pourrait par exemple penser que Cyrano, au-delà de toutes ses belles qualités, l'honneur, le panache, nanana, c'est aussi quelqu'un qui finalement fait le malheur de Christian.
Oui.
Et de, je ne vais pas retrouver le prénom de Roxane. Ouais. On pourrait dire, alors toi, c'est quoi qui te chavire chez Cyrano ?
Au-delà de ça, moi c'était le panache et c'était le fait que. Je suis arrivé à Paris avec une culture populaire, de mecs qui n'étaient pas... je suis pas né dans une famille de lecteurs de Télérama, par exemple. J'ai vu peu de grandes pièces. J'ai vu Tartuffe, des trucs comme ça, mais j'avais déjà 16-17 ans. Et Cyrano faisait partie des choses que j'avais vues, parce que c'était, donc ça me semblait être le grand théâtre, auquel j'avais un peu accès parce qu'on m'a expliqué. Ma mère, elle aimait bien m'expliquer ça. Mais je peux pas dire que, tu vois, en cinéma, en théâtre, j'avais pas la culture. J'avais l'envie, j'avais vu des choses. Mais j'avais pas... Bon, pour moi, j'avais vu plein de Belmondo de Delon. J'aimais même bien les films en noir et blanc. Donc j'étais assez content de récupérer un Jouvet, un machin comme ça. Mais ça reste quand même du mainstream. Et je suis arrivé à Paris. Moi, je marche pragmatique les listes. Première professeure du cours Florent, Fanny Lodicina, qui te ressemble un peu d'ailleurs, Juliette, qui a les mêmes cheveux blonds frisés que toi et qui a même une grande énergie comme ça, qui est très sympa. Et je lui dis, écoutez, moi, j'aimerais bien savoir qu'est-ce qu'il faut savoir. Donnez-moi une liste de pièces à lire, quoi. Et elle m'a fait une super liste depuis Racine Corneille jusqu'à Beckett, passant par Tchekhov, passant par Brecht et tout ça. Et moi, je suis allé, Gilbert Jeune... ceux avec la petite languette jaune, parce que c'était les deuxièmes mains qui coûtaient moins cher. Et j'ai tout lu. Et pour les films, il y avait un bouquin qui s'appelait Mille et un films qu'il faut avoir vu, qui existe toujours chez Bordas et qui change chaque année, c'est-à-dire qu'ils ajoutent, ils en enlèvent. Genre. Et j'ai mis des croix. Et quand j'ai ouvert le bouquin, moi pensant être cinéphile, j'aimais bien regarder des films à la télé, sur les mille et un, j'en avais vu 73, je crois.
Ah.
Et c'est discount. Et les magasins de DVD à l'époque, bon, aujourd'hui ça se fait plus en télécharge, mais j'allais acheter quand c'était à 8 euros, machin. Je prenais, je regardais, c'était dans ma liste, ok. Et je suis arrivé à 350, donc j'ai encore le temps.
Allez.
Pour ma retraite, j'ai encore le temps. Mais ah, je trouvais c'était important. Et alors, il y a eu un prof de cinéma qui était important au cours Florent, parce que tu pouvais prendre des trucs un peu parallèles, c'était pas obligé, hein, mais il y avait cours de cinéma, on voyait des films, il arrêtait, il expliquait. J'avais jamais vu un Fellini, j'avais jamais vu un Rossellini, il m'en a montré. Et après, je me suis dit, mais il y en a, il faut que t'aies vu Bergman, il faut que t'aies vu Hitchcock. Moi, Hitchcock, je crois que j'en avais déjà vu, c'était un peu plus populaire. Et donc, j'y suis allé, pragmatisme. Du coup, comme ça, quand quelqu'un parle de Dreyer ou de Bergman dans une conversation, j'ai pas tout vu, je suis pas d'une grande plus-value, mais je sais où on est.
Ouais.
Donc, ça me semblait important parce qu'à Florent, comme dans toutes les écoles parisiennes, en fonction, à mon avis, de où tu es, il y a une petite prétention à dire, j'adore Beckett. je dis qui c'est celui-là.
Un genre de tennis, non?
Voilà, Boris Beckett, bien sûr.
Il y a François.
Salut.
Et donc,
c'est passionnant, j'écoute.
Je voulais juste m'intégrer aux autres, écouter la conversation, et je voulais pas avoir quelque chose à dire sur Beckett parce que j'avais rien de spécial à ajouter d'ailleurs. Et tout ça, cette culture de pourquoi Cyrano, c'était dans mes premières références. Et J'ai ça pour plein d'arts, c'est-à-dire que la peinture, par exemple, quand tu me demandes mes tableaux préférés, je vais sans doute, maintenant ça va un peu mieux parce que j'ai un peu été faire du hors-piste, mais je vais sans doute choisir des, et je sais pourquoi je l'ai choisi, mais des mainstream.
Non, mais il y a pas de. Moi, je me demandais si tu avais un rapport émotionnel au personnage de Cyrano ou dans la pièce. Il y a un truc qui, en fait, dont tu te rends compte que ça tresse même maintenant.
J'ai vu plusieurs fois. Bah, alors, ça, c'est psychanalytique, mais je trouve ça.
Le nez,
je l'ai pas. Mais je me trouvais pas très beau. Je me trouve toujours pas très beau, mais aujourd'hui, ça me pose moins de problèmes. L'idée de. Alors que c'est lui qui a du panache, c'est lui qui est marrant. Et qu'il envoie l'autre.
Ah oui, donc c'est une réflexion
c'est
sur l'apparence.
C'est quelque chose qui me posait peut-être un peu problème. Je ne comprenais pas pourquoi la fille, elle préférait l'autre parce qu'il est beau, alors qu'en fait, c'était plus sympa de passer du temps avec Cyrano, sans doute. Et j'ai beaucoup de filles, à mon avis, qui ont fait l'erreur à préférer des plus beaux que moi. Est-ce que ça m'a frustré? Oui.
Je te rappelle quand même que dans Cyrano, dans la pièce, il, à aucun moment, Cyrano fait une déclaration à Roxane. C'est-à-dire qu'il ne sait pas si elle ne l'aurait pas choisi, puisque jamais il ne lui fait de déclaration.
Eh bien,
il ne prend jamais le risque. Hein.
J'avais jamais fait cette analyse, mais on ne peut plus juste sur mes 28 premières années, je n'ai jamais pris un râteau parce que je n'ai jamais lancé la canne à pêche. Et vraiment, moi, il fallait attendre que la meilleure copine de la fille vienne me dire « Mais là, ça fait longtemps quand même qu'elle a envie, donc qu'est-ce que je ne tirais pas ?» J'étais sûr. Et du coup, oui, ça, c'est assez juste, Juliette. Je ne m'attendais pas à introspecter à ce point-là.
Bah, garde-le dans un coin de ta tête. Pote,
hein. Mais en vrai, après coup, je l'ai vécu ce que tu dis. C'est-à-dire que j'ai des filles qui sont revenues vers moi après, sans doute. Et là, je ne leur en veux pas du tout de m'avoir refusé avant parce que moi-même, je me trouvais plus séduisant et je me trouvais plus intéressant une fois que j'étais sur les rails qui sont les miens, qui me semblaient être bons rails. Je me cherchais, donc c'était pas idiot qu'elles ne voient pas quelqu'un qui savait très bien ce qu'il faisait, où il allait, parce que moi-même, je n'aurais pas pu leur donner ça. Et certaines me sont revenues en disant « Mais putain, pourquoi tu m'as pas dragué à ce moment-là ? » Parce que franchement, je leur ai dit « Oui, pas toutes. » Et du coup, je me dis « Mais franchement, à l'époque, j'aurais jamais cru une seconde que tu aies dit oui. Mmh. » Tu aurais dit oui.
À quel âge tu t'estimes ? T'as l'impression que tu sais qui t'es ?
C'est pas un jour, c'est pas un switch. Mais,
il n'y a pas de révélation, mais en gros, tu mettrais ça vers quel âge ?
En fait, c'est des très jolies années. Qu'avec leur cul, je trouve très dur parce que je jouais devant 4 personnes dans des bars, tu vois. Mais c'est des très jolies années. Une fois que je sors de ce sketch qui fonctionne en classe et que je commence à en faire un autre, qui est celui des cymbales, qui m'a permis après de faire des concours d'humour et tout ça, et d'aller jouer dans des petites salles parisiennes, dans des cafés-théâtres, dans des open mic, comme disent les jeunes aujourd'hui, nous appelons ça scène ouverte à l'époque, où je croise un peu toute la génération qui me prédécédera dans les médias. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, quand moi je vais voir jouer les autres pour me dire « Tiens, qu'est-ce qu'ils font, de quoi ils parlent, tout ça ?» C'est Le Caplin, c'est de sa mère, c'est Charlotte Gabris, c'est Vérino, c'est Gaspard Proust. Je suis là, je me dis « Putain, ils sont marrants, pourquoi ils passent pas en télé, ceux-là » assez vite, ils y sont passés et je les ai suivis un petit peu, quoi.
Et t'as quel âge, donc, là ?
Entre 28 et... Je vais avoir, ouais, c'est ça. Je sors de Florent 3 ans, donc j'ai 27. Le temps que je me lance un peu, je dois avoir 28. Donc, entre 28 et 32, c'est des années où tu dis... Wow, tout est possible. Un jour, j'avais 120 personnes devant moi. J'ai pas rien.
Mais comment tu t'es mis à écrire ces sketchs actuellement ? Tu sors de Florent.
J'en ai deux.
T'en as deux que t'as déjà.
J'ai travaillé au cours avec Stéphanie, plus deux idées. J'ai toujours noté des trucs. Et ça, c'est marrant parce qu'à un moment, j'ai réouvert cette boîte où il y avait des chansons tristes. C'est mon exutoire, je crois. Comment on appelle ça ? Des aphorismes. Et parfois des idées de vannes ou des idées de sketch ou des trucs. Ça s'appelle doc sur mon ordinateur de l'époque.
En numérique.
Tu vois, ou idée, je sais plus. Ouais, en numérique. Et donc je réouvre ce truc en me disant je vais écrire. C'était le moment où on écrivait des sketchs. J'ai écrit 3 sketchs. Je suis allé chez Stéphanie Bataille et je lui dis écoute, comme ça s'est bien passé avec toi et tout, ma plus belle réussite à Florence, c'est grâce à toi en un mois. Est-ce que tu voudrais pas me mettre en scène ? Elle me prend les textes, regarde, elle fait, mais il y a trois sketchs là. Je dis, oui. Je dis, on va faire un spectacle. Je dis, oui, mais bon, faut bien faire trois sketchs. Oui, non, mais tiens. Elle dit, on se revoit quand tu auras un spectacle, mais sur le principe, oui. Et à ce moment-là, on doit être au mois de juin, et donc tout l'été, je pars deux semaines en vacances, mais tout l'été, je reste à Paris, et je
vais voir
chez des gens, et j'écris. Et j'écris, et puis elle voit le truc.
T'écris, tu testes pas ?
Peu.
Toi ?
Peu.
Non. Tu vas pas dans les cafés-théâtres ?
Peu, alors pourquoi ? Parce qu'il y avait déjà à ce moment-là les balbutiements de ma façon de faire aujourd'hui avec des images. Donc d'accord. Autant les cymbales, c'était facile. Enfin, c'était facile, c'était un peu chiant d'être emballé dans le métro, mais enfin, je pouvais les embarquer. Le sketch dont on parle beaucoup sur l'art, avec les projections, ça, tu pouvais pas arriver. Enfin, j'avais pas le matos pour installer ça. Donc celui-là, il était écrit, mais j'ai vu qu'il fonctionnait qu'une fois qu'on a pu un tout petit peu avoir un projo et du matériel.
D'accord. Ouais.
Mais donc, elle y croyait. Bon, il a fallu. On a changé. Les trois premières années, on a changé l'ordre des sketchs, mais tout le temps. La cymbale a ouvert, a fermé, a été au milieu. Voilà, tout. Pour après arriver à un truc quand même qui fonctionnait. Et puis, petit à petit, c'est toutes des belles années parce que chaque année, tu as un peu plus de dates, les salles sont un peu plus grandes. Puis, arrive la radio, il arrive des choses qui remplissent ma salle. Et donc tout ça est très très. C'est pour ça que j'ai joué si longtemps, parce que comme chaque année c'était mieux.
Oui, oui.
Si j'avais pas eu un producteur qui m'a demandé d'arrêter, je
serais toujours là.
Oui, et puis en plus, c'est vrai qu'un spectacle, ça, quand on sait qu'on a un truc qui a une valeur et qui nous convient, en plus à nous, tu passes ton temps à le réécrire.
Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi une forme de lassitude de faire la même chose,
sauf si tu passes ton temps à le réécrire. Moi, entre la première forme de Arrête de pleurer Pénélope en 98, je sais parce que j'ai une cassette VHS chez ma rhum.
De la toute première.
Chez ta mère.
De ma mère.
Des premières.
Oui, oui. Ah, marrant. Oui, 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 oui. À Lyon. Vraiment. Donc je peux voir. Et franchement, et le DVD de.
65% qui reste dans la dernière version.
Ah, il y a beaucoup moins.
C'est vrai ?
Ah ouais, il reste 40%, je dirais. Il y a les personnages, il y a en gros l'intrigue de la pièce, mais ça s'arrête là. Tout le reste...
Mais à un moment, il se fige, ce spectacle. Ton spectacle, tu l'as fait 10 ans, Alex.
Oui, et pas complètement. C'est-à-dire que quand il se passe une bonne anecdote dans la salle, machin...
Oui, mais, mais à même... 95%,
oui,
il se fige.
Si. Donc, mais ça, c'est vraiment les trois dernières années, quoi.
Ah, seulement les trois dernières années sur 10 ans ?
Oui, oui.
Ouais, allez, et nous, pareil, sur Pénélope, on a...
Le premier.
La première pièce, 5 ans d'affilée, non-stop.
Ah oui, c'est vrai que t'as eu un
quasiment
deux, toi,
non-stop, ouais. Eh bien, on l'a changé jusque... Je n'ai pas de souvenir, par exemple, de moments où on ne rentrait pas de vacances, si on n'avait pas une qui arrivait en disant « J'ai une idée de génie !»
Oui, mais à 95%, je veux dire.
Non, il y a vraiment... c'était une matière... ça a été... C'est un truc de rêve, ça, quand t'écris ton propre truc. S'il y a bien un truc qui est cool...
Que tu peux
par rapport à jouer n'importe quelle pièce de Molière, par exemple.
C'est plus dur de modifier.
Mais je crois que c'est con. Je crois que c'est con parce que Molière lui-même modifiait tout le temps. Et je pense qu'on y gagnerait.
Pourquoi on ne fait pas alors ?
Un jour avec... ça dépend qui met en scène, en fait.
Alors, en fait, ça dépend. Mais souvent, les metteurs en scène, en fait, ils te demandent, et ils ont raison, je pense, ça me semble pragmatique, qu'il y a un moment où il faut que la réécriture s'arrête, que tu figes.
Ouais, ça.
Qu'il y a un progrès de jeu, parce qu'il n'y a pas que. Il y a aussi le jeu entre les personnages, les actrices, en l'occurrence dans notre cas. Et donc, ils te demandent de figer à un moment. Et donc, pour que les actrices arrivent à un bon niveau, on a estimé à peu près qu'on jouait pas trop, trop mal. Et quand on a eu estimé qu'on avait à peu près compris bien, bien nos personnages, on a commencé à se faire chier. Et donc là, les autrices ont repris le dessus en disant « Venez, on met un autre truc
okay, !» Mais il y a quand même cette notion de, à un moment, faire toujours le même spectacle. Ça peut être un peu chiant.
C'est très chiant.
Faut apporter de la variété.
Surtout que nous, on faisait que ça. Toi, tu n'as jamais fait que ça.
Oui. C'est vrai. C'est vrai, je prends toujours cette comparaison qui en général parle à tout le monde. Le problème, c'est quand tu fais des séries. Des séries au même endroit. Et je pense que toi, parfois, tu allais dans des théâtres et tu jouais 10 jours dans le même théâtre. Et puis,
ouais.
Enfin, avant de faire les Zéniths. Pas vous en parler parce que je n'ai jamais fait. Mais, c'est vrai, pas très chaleureux, les Zéniths. Pour avoir fait des grandes salles un peu qui ressemblent à des halls de gare. Mais je compare toujours à faire l'amour. C'est-à-dire que quand tu vas voir,
je l'ai pas vu venir, mais du tout.
Moi non plus.
Quand à Avignon, tu joues 22 fois d'affilée. C'est comme si tu fais l'amour 22 fois d'affilée à la même heure, au même endroit. Certes, pas toujours avec la même personne, c'est pas le même public, mais quand même, ça ressemble à la veille. Quand tu arrêtes pendant 5 jours, tu as re-envie de faire l'amour et tu es très content de le refaire dans un autre théâtre avec plus de gens différemment, une autre ambiance, d'autres préliminaires parce que tu n'es pas dans la même loge, tu ne manges pas la même chose. Ça. Et effectivement, si tu repars pour 3 fois, bah, tu te dis, bon, bah, cette fois, pendant 2 jours, je ne ferai bien plus l'amour. Et puis, quand même, et, alors le pire, c'est les vacances, tu as envie, tu bombes de théâtre quand tu reviens au 15 septembre et que tu as une première date, au point que. Normalement, tu as un problème d'érection. Parce que tu ne connais plus le texte.
Ou ça part,
t'as envie d'y aller.
Ça part trop vite.
Et ça, ouais, c'est ça. Qu'est-ce que je dis?
Non, c'est quoi déjà? Comment je m'appelle?
Moi, je voulais te demander, parce que tu vois, là, on est maintenant, on a fait des deux premiers sketchs jusqu'à. Bah,
si on saute des canons, ouais. Revenez à ce que vous voulez.
Non, mais le truc de cet été où moi, je voudrais savoir comment tu as vécu ce truc de. Ok, elle te dit sur le principe, je suis ok, ta metteuse en scène. Et que tu as 3 sketchs et tu dois écrire un spectacle. Donc, un spectacle, c'est en gros 1h30. Quoi, c'était combien?
Une heure, 1h20. Enfin, mais j'ai pas d'idée de la taille. C'est-à-dire que quand tu écris, tu ne sais pas encore combien. Encore plus qu'un bon spectacle, je crois, c'est 30 pages.
On parle plus de faire l'amour, là.
Non, mais c'est vrai. 30 pages. Là, maintenant, je sais qu'à la radio. Plus ou moins en trichotant, mais en caractère 14 times, 2 pages, ça fait 4 minutes.
Hein, Ramzy? C'est pour le journal.
Parfois, il y a des rires, et tu ne les as pas mesurés. Parfois, tu dis... Et Charline, elle le voyait quand... je ne le faisais pas dans le journal, mais je le faisais parfois pour le sketch de début. Pour que ça rentre dans 2 pages, je passais en 13.
On les connaît, ces techniques.
Sauf que quand tu l'as dans l'œil, le 14, que tu as tous les jours du 14, elle voyait que je passais en 13.
Tu sais comment moi je trichais? Je changeais l'interligne.
Et oui, légèrement.
T'es plus fort que moi en technique. Moi, je savais pas que c'était possible.
En technique, en traîtrise.
Le
mot que tu
en
cherches.
En mensonge.
Mais cela dit, ça se voit aussi, l'interligne.
Moi.
Il l'a testé sur un certain nombre de gens. Moi.
Bah oui, tu gardes la même police et tu changes un tout petit peu l'interligne et hop, les 3 dernières lignes qui dépassaient ou le truc tac. Remontent.
Parce qu'au départ, moi j'avais essayé d'imprimer sur du A3, mais elle a vu tout de suite que les feuilles étaient plus grandes. Et ça, c'était pas la bonne technique.
On a tous arnaqué Charline en fait.
Il y en a pour qui c'est pas terminé.
Non.
Allez, c'est le moment où on parle de ces chroniqueurs qui sont absolument pas capables de faire un truc de 3 minutes.
Alors, je voudrais parler de.
Allez. Vas-y, François.
Et oui, donc. Comment t'abordes ça? Parce que c'est un peu. Elle te dit ça, c'est un peu. Tu dis, ah putain, c'est ma chance, non?
Bah, je me dis, trop cool, j'ai convaincu quelqu'un, mais quelqu'un que je ne veux absolument pas décevoir. Parce que, en fait, est-ce que je me rends compte que c'est. C'est une main tendue qui repassera plus ou plus comme ça ou tu vois et je sais pas à ce moment-là à quel point elle est généreuse, à quel point elle mouffe son carnet d'adresse, à quel point elle dit à tout le monde que je suis formidable, à quel point elle me tire vers le haut, mais c'est une main que je vois passer qui me semble être stable et je me dis là, c'est peut-être pas la confiance en moi, je me dis peut-être ça lui fera plaisir aussi son élève, tu vois, je me disais que c'était une chouette carte de visite pour elle aussi si j'étais bon, mais c'était plutôt dans l'autre sens que c'était une chance, tu vois. Et donc j'écris chez moi, parce que souvent les gens ils pensent que, enfin il y a chacun sa technique, hein, mais moi j'écris à l'ordinateur et je me marre pas en écrivant, enfin j'écris, je me dis tiens ça pourrait être drôle, j'ai pas l'expérience encore de l'efficacité d'une vanne, donc je me dis ça pourrait être drôle, mais je suis pas sûr. Et au fur et à mesure, bon bah après, tu te rends compte qu'il faut raccourcir, tu te rends compte qu'il faut rythmer, tu te rends compte que le mot important il faut le mettre à la fin, mais bon ça, mais les axes de drôlerie y étaient, et je peut-être pas changé autant que toi, alors entre la première et si toi t'as changé 60%, moi j'ai changé 40% au moins quoi.
Et tu t'imposais une rigueur d'écriture, genre écrire, je sais pas.
C'était une période où j'avais une.
5 pages par jour.
Non, pas en quantité.
De 9h à 17h ou un truc.
Plutôt ça. Et à ce moment-là, Walter écrivait son spectacle ensemble. Donc parfois, on se retrouvait après 2 jours. Il habitait pas très loin de chez moi, du côté de Nation. Et on se lisait ce qu'on avait écrit. On se disait. Mais, au fond, c'était plus pour se soutenir. Je ne pense pas que je l'ai aidé beaucoup, je ne pense pas qu'il m'ait aidé beaucoup, mais l'idée qu'on soit à une table, en fait, on se parlait à nous-mêmes. En étant à deux. Mais c'était chouette, il y avait quelqu'un qui vivait la même chose que moi, mais moi, quoi, tu vois.
Oui, ça t'obligeait aussi peut-être de...
D'avoir quelque chose à lui dire. Je me serais ennuyé. À l'époque, on ne sortait pas son téléphone si facilement, il n'y avait pas de smartphone. Et donc on a avancé et lui allait un peu plus tester que moi, je crois. Mais moi je savais qu'il y avait Stéphanie qui allait reverrouiller. Et puis j'étais un petit peu plus frileux de monter sur scène comme ça. Pour moi la scène c'était le théâtre, c'est-à-dire il y a une loge, il y a les petites lumières autour que tu allumes, tu te maquilles, tu te changes, tu te concentres. Mais tu n'arrives pas en jogging basket, en prenant le micro, et fais ça va. Maintenant, je sais le faire et j'aime bien ça. Mais au départ, pour moi, j'étais classique, moi, Cyrano. Hein. Enfin, il fallait mettre le nez. Hein, c'est pas moi, c'est le personnage. Et d'ailleurs, mon premier personnage de sketch avait des lunettes et une cravate. Donc moi, j'allais aux toilettes de ces lieux-là, parce qu'il n'y a pas de loge, c'était souvent des bars ou des machins. Mm. J'allais aux toilettes, mettre ma cravate, mettre mes lunettes, mettre de la gomina pour mettre les cheveux en arrière pour avoir l'air d'un télo, parce que j'estimais que c'était ça qu'il fallait jouer pour mes sketchs. Et donc j'avais l'impression quand même d'être un personnage, mais un personnage que je fais du stand-up parce que je m'adressais au quatrième mur. Après tout ça on a enlevé. Stéphanie sans doute elle avait vu tout de suite que c'était une protection et que c'était important que je passe par
là. T'en avais besoin pour franchir le pas et...
Madeleine Renaud disait je trouve mon personnage quand je trouve ses chaussures. Et donc, moi, j'avais toujours aussi les mêmes chaussures. J'avais l'impression que c'était dans ceux-là, avec des talonnettes, où j'avais l'impression d'être un peu plus haut, et que j'étais plus à l'aise. Et je pense que c'est plus, comme tu dis, une protection ou d'être à l'aise, que vraiment, j'ai pu jouer après ce sketch avec d'autres chaussures. Mais à ce moment-là, c'était introuvable.
Et c'était une suite de sketch, le spectacle ?
La création m'était imposée ça. C'était mon côté Oulipo. Et je m'étais imposé que chaque sketch ait un lien avec un art. Donc, il y avait un sketch, c'est l'art pictural, et c'est celui qu'on voit sur la peinture et l'art moderne. Un sketch, c'était la musique, c'est celui des cymbales. Il y a un sketch, c'est la sculpture, et je me vois encore réfléchir. L'architecture, par exemple, j'avais idée, mais je n'ai rien trouvé. Je ne suis pas arrivé à trouver quelque chose de marrant. Je me suis dit, la sculpture, je ne vais quand même pas faire une sculpture moi-même. Parce que bon, si je me mets comme ça... Et puis, j'avais trouvé cette idée, en fait, de ne pas bouger. Et que le texte s'affiche sur. Et si tu veux, je crois que ça n'y a pas eu depuis, en tout cas, il n'y a pas depuis un sketch où les gens le lisaient. Et donc, moi, j'étais comme ça, et tout le sketch apparaissait sur des cartons. C'était drôle, selon 3 minutes 30, j'avais pris une toche que je mettais comme ça, et je ne bougeais pas, je faisais des disco balls. Et les gens se marraient. Au départ, non, c'est-à-dire que j'ai enlevé des cartons, j'en ai réécrit, comme dans tous les sketchs. Mais sauf que j'avais les rires, boum, 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 et c'était rigolo. C'était le seul sketch où je pouvais rien faire. Il y a un moment, je faisais un clin d'œil. C'était tout sur 4 minutes.
C'était la pause, quoi, tranquille.
C'était la pause, ouais. Et puis il y avait un sketch sur. Le cinéma, c'était Mort à Venise. Là,
donc en fait, c'était des thématiques, des sketchs, mais il y avait un fil conducteur, c'était à chaque fois l'art.
Ça, et
donc en fait, ça faisait une unité de spectacle.
J'avais des noirs entre, ce qui était courant à l'époque entre les sketchs. On avait un noir, applaudissement, on passe au sketch suivant.
Est-ce que ça te donnait comme ça des contraintes, parce que c'est une contrainte forte, mais c'est marrant, est-ce que c'est ça qui t'a aussi aidé à écrire vite, parce qu'a priori il fallait que tu rendes...
J'aime bien les contraintes, et vous le savez tous, c'est-à-dire que si le journal de 17h17 n'était pas à 17h17, il serait toujours pas écrit le premier, en me disant oui, bon, enfin ça demain, tu vois. Donc moi c'est la radio, ça m'a... Enfin, en fait c'est pas que ça m'a aidé, c'est que... moi, je suis admiratif des gens qui écrivent des romans, par exemple, parce que c'est beaucoup de pages, beaucoup de choses, beaucoup d'énergie, beaucoup de relecture pour un truc dont la satisfaction de l'avoir terminé arrive très loin derrière. Et donc, je n'ai jamais rien écrit. Je crois que ce que j'ai écrit de plus massif, c'est les contes pour enfants, qui doivent faire tout et pour tout la taille de 5 ou 6 chroniques. Mais j'adorerais écrire une pièce de théâtre, j'en ai commencé plein. J'adorerais un roman, je pense pas. Mais les chansons, par exemple, j'aime bien.
Mais les spectacles, du coup, c'est quand même massif.
Alors, oui, mais on a la chance, en tant qu'humoriste, d'être testé par morceau.
Ouais.
Et même à Duitam, je me dis, ok, là, je fais un truc sur les cendres, je vais dans un comedy club, j'essaye 5 minutes.
Oui, t'as repris cette même façon de fonctionner, de te mettre une contrainte toutes les 5-6 minutes.
Oui, si tu veux, je peux sortir.
Et là, une variation sur thème un peu, quoi.
Oui, Ad Vitam, c'était plus du coup une dissertation sur un thème. Mais quand même, tu peux décortiquer le spectacle. Hein. C'est la reproduction animale, faut-il avoir des enfants, la philosophie, Que faire du corps et de l'âme ? Donc là, c'est les cendres, les épitaphes, la réincarnation. Poum, un jeu, lequel des deux je sauverais, machin. Et après, l'art, j'ai remis des tableaux sur la mort. Et puis, mon éloge funèbre est terminé. Mmh. Mais donc, effectivement, il y a des trucs que je ne pouvais pas tester, parce que l'éloge funèbre, comme il reprend tout le spectacle, je ne pouvais pas le tester. Mais tous les autres morceaux, à part, on va dire, l'art, parce qu'on est obligé de remontrer les tableaux, tous les autres, je pouvais les essayer dans Comedy Club, par morceau. Et c'est rassurant d'avoir des retours. Alors, je ne sais pas comment tu fais quand tu écris un roman. Est-ce que tu fais lire à part deux chapitres
Moi, je fais lire tout le temps.
Ah oui, d'accord.
Ah ouais.
Ouais, mais c'est ce qui est chouette, hein.
Non, moi j'ai des gens autour de moi qui sont, qui en général sont pas du tout dans nos milieux, mais qui ont la gentillesse de bien vouloir lire au fur et à mesure, ouais.
Ouais. Mais parce que t'as besoin d'être rassuré, adoubé, conseillé.
Ouais, c'est un côté, c'est un truc puéril.
Oui, mais je suis d'accord parce que
chez moi c'est extrêmement puéril.
Mais c'est ce que tu faisais avec, j'ai oublié son nom.
Walter. Oui, oui, c'est ça. Oui. Oui, mais ici, on avait un peu tous les deux la même. Mm. Quand Juliette dit, c'est pas les gens de mon milieu. Moi, c'était 100% la personne qui avait la même ambition et envie que moi. Quoi, donc.
Oui, mais toi, c'est pas des gens de ton milieu, mais c'est des lecteurs. C'est des gens qui lisent beaucoup.
Oui, des gens qui aiment lire.
Donc, qui aiment lire. Donc,
mais ça ne viendrait pas à l'idée de faire ça avec un éditeur ou une éditrice, par exemple. Non. J'aurais beaucoup trop peur que tout à coup, ils me disent, ils ou elles me disent, cette direction. Je me dirais, mais ça va pas ou quoi tu...
Alors, c'est là, mais ça peut être un autre éditeur qui te donnerait des conseils, pas ton éditeur.
C'est pas de conseils dont j'ai besoin dans ces moments-là.
C'est juste qu'on te dise, oui, c'est bien.
Oui, continue, c'est bien. Vas-y, mamie. Okay. Allez, caresse.
C'est intéressant parce que c'est la petite nuance. C'est que moi, j'ai le pareil que toi, sauf que quand on est en doute... Moi, je suis obligé de montrer à ma metteur en scène. Enfin, à un moment, il faut que je montre. Quand on est en doute, je disais, tu sais quoi, t'as peut-être, je vais l'essayer. Et donc, j'essaye trois fois cette blague que je pense très bonne, que Stéphanie me dit, oh, franchement, c'est vulgaire.
C'est sûr que c'est plus compliqué sur un roman de dire, je vais l'essayer.
On va le mettre au pilon. C'est-à-dire que c'est cher. Et donc, nous, on a cette chance-là.
Oui, c'est surtout que c'est pas le même, ça peut ne pas être le même, tout simplement, roman. Ça, c'est, tu lis, je sais pas, les 10 premières. Je te donne à lire les 10 premières pages. Mmh. Il se trouve que c'est 10 premières pages où le début de l'intrigue est donné. Il est possible que si la personne, son métier, c'est l'édition, ou d'écrire soi-même des romans, elle va te dire.
Vers où tu dois aller.
Et ça sera horrible parce que toi, t'as pas prévu d'aller du tout là. Mais si t'es un peu friable, tu vas te dire. Alors, est-ce que je ferais pas mieux de l'écouter ? Est-ce qu'il ou elle n'a pas une meilleure vision des choses que moi ? Pourquoi tu te marres ?
Non, non.
C'est tout à fait juste. Et je pense que ça reste de savoir si vous êtes convaincu d'être marrant ou d'être drôle ou d'être créatif. C'est toujours compliqué d'avoir des retours. Et c'est pour ça que je le dis, je le dis une fois pour toutes. Quand les gens m'envoient des textes, soit c'est vraiment des très proches à qui je sais, je leur balise en leur disant ça n'est que mon avis et très honnêtement ne le prends pas mais si tu veux, mais sinon quand les gens m'écrivent en disant j'aime ce que vous faites, j'aimerais tellement votre avis et tout, je trouve ça bon, certes c'est du temps en fait déjà à prendre, ouais. Mais bon ça éventuellement je peux le faire, mais je leur réponds toujours écoutez, il y a deux trucs, c'est à dire soit j'aime et je peux pas faire grand chose pour vous en fait, soit j'aime pas et je vais pas vous le dire parce que j'ai peut-être tort, le nombre, à mon avis, les premières, enfin, je ne sais pas, quelqu'un qui est controversé, mais si Céline avait envoyé à Proust lui aurait dit, franchement, laissez tomber, vous écrivez comme une pelle, ça aurait été bien con, indépendamment du cas Céline que nous n'allons pas ouvrir.
Céline ou pas, en fait
Tu vois ce que je veux dire, et donc je dis, en fait, moi, il faut que vous me ringardisiez, en fait, c'est-à-dire qu'il faut que vous écriviez différemment, je pense si j'avais lu, je le cite souvent lui, j'espère qu'il le prend bien, parce qu'au final, c'est toujours un compliment, mais... Moi, l'humour de Roman Frécinet au départ, je le comprenais pas hyper bien. Et s'il m'avait donné ses textes, je lui ai dit oh là, mon vieux, va tout de suite à l'essentiel. Hein. Tu m'enlèves ça, quand tu racontes ça, franchement, je m'en fiche. Bah, sauf que maintenant, j'ai compris son style et il me fait marrer. Ouais. Et puis j'aime bien sa façon de tourner autour du pot. Mmh. Et heureusement qu'il m'a pas demandé mon avis. Mais voilà, donc quand ça, je trouve que c'est si vous y croyez, il faut pas ne écouter personne. Sinon, il y a des gens qui disent bah, putain, je m'en fous.
Ouais, c'est toujours. C'est toujours intéressant.
Ouais, je pense il a trouvé quelque chose en tout cas.
Stop.
Ouais. Non, mais c'est toujours intéressant pour pour ceux qui débutent d'avoir une forme. Enfin,
d'avoir une forme de validation de la part de quelqu'un que tu, que, dont t'aimes le travail.
À part le plaisir d'orgueil, que je comprends tout à fait, j'aurais adoré que Fabrice Lucchini vienne me voir et me dise « c'est incroyable, j'ai l'impression que vous êtes mon successeur ». Mais en l'occurrence,
ouais, mais ça donne envie de continuer. Ça oui, donne peut-être.
Mais ça dépend qui. Oui,
et c'est pour ça que
les gens qui ont besoin de ça.
Je leur dis toujours continuez à écrire, c'est le plus beau métier. Continuez, mais vraiment, mon avis n'est pas intéressant à ce stade-ci des choses.
Okay. En fait, il a raison. Là où je pense que Alex a pas particulièrement raison, c'est qu'il y a des moments où c'est pas le bon moment. Des conseils, des démonstrations. Moi, quand j'envoie toutes les deux ou quatre pages, c'est vraiment pas le moment où je suis en train de chercher. Je suis en train de...
Oui, c'est... mais là, si la personne t'envoie un texte ou machin, c'est... la personne a choisi le moment, donc c'est son moment.
Oui, mais souvent, les gens... je sais ce que je lis. Ça m'arrive souvent de lire le travail de mes amis. Par exemple, là, récemment, j'ai lu 90 pages... d'un petit roman il manquait, je sais pas, un quart, mettons, un cinquième. Moi, j'ai suffisamment de métier comme lectrice pour voir de manière évidente des choses qui lui échappent à elle. Est-ce que elle... C'est la première question que je lui ai posée, c'est pourquoi est-ce que tu me fais lire un truc qui n'est pas fini ? Il faut que tu te poses la question, il faut que tu m'y répondes, parce que avant que tu me répondes à cette question, moi, je vais prendre garde, enfin, ça va changer ma manière de t'énoncer les choses. En fait, c'est fragile, c'est ça que je veux dire. Et que
C'est juste. Ouais, et à la lecture, moi, je ne me rends pas compte de tout.
Oh, et, ouais, et c'est pour ça. Je suis entièrement d'accord.
Ne doute
surtout
pas.
Tu prends l'exemple de Roman Frayssinet. Ouais. Le jeu fait 80% de ses
vannes. Mais même au départ, même son jeu, je n'avais pas compris où il m'emmenait. Ah ouais, et d'autres, heureusement d'ailleurs, parce que grâce à ça, il est sorti, il est très bien sorti. Et aujourd'hui, voilà, je trouve qu'il est très drôle. Alors sans doute, il a progressé aussi un peu, hein, je regarde beaucoup, moi, aussi parce que le Comedy Club à Bruxelles, dès que je vois un mec, et ça c'est un peu rigolo, c'est-à-dire que quand tu vois un mec à 800 followers, mais que j'ai vu deux vidéos qui est marrante, moi, je le suis. Et alors, ça me fait trop plaisir et tout, j'aime beaucoup ce que vous faites. Je dis, moi aussi, en vrai, j'ai vu un sketch qui est passé, je le kiffe. Voilà, quand vous en aurez un peu plus, j'essayerai que vous puissiez jouer. Mais c'est moi qui vois. Ouais. C'est-à-dire que si on m'envoie en disant, regardez comme je suis drôle, en général, déjà, ça.
Non, c'est pas regarder comme
je suis drôle. Ça me pose un problème.
C'est est-ce que vous pensez que.
Oui, mais il y a toujours un sous-texte, c'est-à-dire qu'ils ont envie que je puisse les aider.
Voilà, c'est ça, c'est le sous-texte qui va avec.
Ça, c'est pas juste abrut de savoir.
J'en sais rien. Moi, j'étais dans l'idée,
mais je comprends, moi,
dans l'idée de la fabrique, de la fabrication encore. La personne qui se dit, tu vois, un peu comme tu avais expliqué, Juliette, dans le premier épisode, quand tu as rencontré Jean-Pierre Bacri et que tu lui as filé Arrête de pleurer, Pénélope, la pièce. Et il l'a lu, il t'a dit, vous avez le sens du dialogue ou quelque chose comme ça.
Vous avez un sens certain du dialogue.
Voilà. On peut se dire, ouais, bon, qu'est-ce qu'on s'en fout de son avis à Jean-Pierre Bacri, mais n'empêche, toi, t'aimes Jean-Pierre Bacri, t'aimes son écriture en tout cas, et qui te dit ça, bah, ça t'a encouragé à continuer. C'est pas tant pour un coup de pouce pour qu'il t'ouvre le théâtre des deux ânes ou n'importe quoi,
mais
c'était pour toi, ça t'a boosté l'idée de continuer à faire ce métier.
C'est vrai, et il se trouve qu'il a répondu, et nanana, et nanana, et que ça nous a toutes les trois vachement encouragés.
J'étais dans cette optique-là, pas dans l'optique de ah bah tu vas me faire venir à RTL ou machin. C'était dans l'optique de juste encourager la personne à faire. À continuer à écrire ou à continuer à jouer ou à continuer à...
Après, je vois très bien ce que représente la distance entre toi, chez toi, qui crée, et ce milieu où tout se fait. Et où tu penses que tu ne rentreras jamais. Mmh. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de fils d'eux, parce qu'eux, ils savent, en fait, ils les ont à la maison. À table, ça discute avec le réalisateur, et tu dis, oui, je vais faire comme mon père. Et d'ailleurs, si les parents étaient bougés, instinctivement, tu dis, pourquoi je ne serais pas bougé ? Ça m'a l'air sympa. Et pour moi qui venais, je pense c'est le cas aussi, Juliette, d'un milieu où je n'avais jamais vu en vrai un artiste de manière amicale. Je les attendais à la sortie des pièces de théâtre et des choses comme ça, mais je ne peux pas dire que je pouvez en faire partie. L'idée de discuter même avec quelqu'un d'un semi-projet, moi j'avais que des entre-deux. Stéphanie me dit ouais, mais, moi j'ai travaillé avec machin. Moi je connaissais quelqu'un qui avait travaillé avec. Et donc je me dis, bon, et c'est vertigineux ça. Moi j'ai cet exemple-là d'un pote que j'aime beaucoup. On était en classe ensemble et David Lynch vient faire et ce pote bossait dans les boîtes de nuit, le Divan du Monde à l'époque, vient faire une conférence au Divan du Monde et on était en deuxième cours plan et on était trois potes à se soutenir un peu ça, et lui vraiment il en voulait, il était sûr de lui et il essayait des choses et peut-être c'est chouette. Et il vient nous dire, voilà, j'ai préparé mon CV. Si j'étais barman au Divan du Monde, je donnais à David Lynch. Et les deux autres nous regardent en disant, bah, fais pas ça, c'est gênant, quoi. Jamais il casse pas comme ça. David Lynch, il a le 06 de DiCaprio. Il attendait pas que tu viennes poser ton CV entre deux coupes de champagne pendant que. Et au fond. Il a peut-être raison, il y a enfin un mec de ce milieu-là qui va être là et qui va peut-être me demander un truc, c'est-à-dire une coupe de champagne, et je vais dire, bah écoute, moi je t'amène ça, mais non. Et moi, j'avais pas du tout, je me suis dit, bon, on trouvera une autre manière, parce que ça, je sais pas faire, j'y arrive pas. Mais est-ce que c'est lui qui avait raison? J'en sais rien. Je crois qu'on en a tellement rigolé avec le deuxième qu'il a décidé de ne pas le faire. Ouais. Et du coup, j'espère qu'il n'imagine pas aujourd'hui que David est passé à côté du prochain Lynch.
À cause de toi.
À cause de...
Non, oui, mais
à
parce que c'est vrai que le cours Florent, ils étaient remplis.
Mais tout le monde avait envie de ça.
De légendes urbaines de cet ordre. J'étais la meuf qui accompagnait.
Machin à casting,
et c'est moi qui ai été repéré. Mais cette histoire-là, mais qu'est-ce que les élèves aiment plus se raconter que pile cette histoire-là?
Alors que la seule histoire, c'est travail, et on finira toujours par te voir quelque part.
Et si t'as des parents qui font ce taf, ça sera mieux.
Oui, ça c'est sûr. Mais...
Une mauvaise nouvelle, c'est fini.
Non.
Bah, c'est... Oh là là.
Mais j'ai une bonne nouvelle, c'est que ça veut dire qu'on en fera un deuxième avec Alex.
Eh ben oui.
Ah merde, pourquoi je...
Bientôt.
Mais je voulais quand même juste rajouter un truc.
On n'a pas parlé du tout de la radio.
Bah non, mais de l'écriture collective.
Parce que c'est là-dessus
que
je voulais. Ah oui, je me rends pas compte. C'est combien de temps qu'on parle?
Ça fait 4 heures. Ça fait 1 heure. Ça fait 1 heure.
Et on a fait 2 questions.
Donc Alex, on te retrouve partout.
Alors, où est-ce que tu travailles?
France Inter. Alors figure-toi, j'espère que je vais y réapparaître. Parce que, en fait, non, j'ai écrit un Oli.
Et oui, ça je sais, ouais.
Avec, qui a été tourné avec l'orchestre
avant le
philharmonique avant le départ. J'espère que le Oli va pas disparaître.
Alors c'est marrant parce que le chien a disparu.
Ils ont changé ta voix par celle de Maya Mazorette.
Mais alors, tant qu'on dit que c'est moi qui l'écris, ça me va. Mais...
Alors, c'est très marrant parce que le jour où moi je l'ai appris. Tu couperas si. Le jour où je l'ai appris, j'étais en formation avec la réalisatrice Lola Constantini, qui a tourné le Oli. Et j'arrive, je vois des messages sur le groupe. Et je dis, oh putain, ça y est, Alex se barre à RTL. Elle se retourne et fait, oh, et mon Oli alors? elle savait pas si ça allait être diffusé. Donc on peut lui dire maintenant, la rassurer, lui dire qu'il va être diffusé.
J'espère, parce que j'étais couplé avec Adeline Dieudonné, qui n'a rien à voir avec France Inter non plus. Bon, après, elle a pas le même passif.
Mais elle est pas sur RTL.
Ouais, elle est pas partie sur RTL. Enfin, je crois pas.
Donc on te retrouve dans Télématin, quel jour?
Le mardi dans Télématin.
Une fois par semaine, ça va?
Ouais,
ça va.
Bah, parce qu'en fait, il y a l'émission avec Philippe Cavrivière qui arrive.
Ah oui, donc Télématin le mardi. L'émission avec Cave Rivière, bon, c'est un horreur, c'est le dimanche soir.
Ah, ouais. Mais donc, regardez un quart d'heure de nous pour vous chauffer. Voilà. Peut-être même 20 minutes parce que vous avez le
journal.
Jusqu'à
18h.
Oui, on commence jusqu'à 18h13. Hein.
Bah, alors, vous avez presque vu toute mon émission.
Ah bah voilà, ça tourne, c'est
mais
hyper
à,
bien
à la fin, mais que des trucs nuls pour ton émission.
Ouais. Moi, je vais mettre les chroniques de Philippe.
Voilà. Et on se retrouve sur RTL tous les soirs à 18h.
Tous les soirs, 18h35, du lundi au jeudi, et en tournée avec le spectacle.
Et en fin d'année, une pièce de théâtre apparemment.
À partir du mois de mai, à Antibes, en théâtre, qui est un grand, grand théâtre. L'argent des autres. J'attends mon partenaire masculin en l'occurrence, mais il y a aussi deux beaux rôles féminins et j'espère qu'on a
François Audouin et Juliette Arnault.
Alors Juliette pourrait jouer un des rôles, François non, parce que en fait dans le film, parce que c'est une pièce de théâtre au départ, mais ils ont fait un film Hollywood qu'ils ont un peu changé des trucs et qui est moins meilleur je pense que la pièce, c'est Danny DeVito et Gregory Peck. Moi je suis Danny DeVito, donc en fait il mange beaucoup de donuts, donc il y a deux solutions: soit je lui fais enlever l'idée qu'il mange des donuts et on trouve autre chose, soit je vais devoir prendre 20 kilos que je ne perdrai jamais.
jamais.
J'espère que le metteur en scène va opter pour qu'on trouve autre chose de rigolo. Et Gregory Peck, donc c'était à la fin de sa vie, donc il me faut un acteur d'un certain âge.
Ah oui.
Voilà, d'un âge certain.
Voilà, d'un âge certain. Et Hippolyte n'a pas voulu jouer. Et j'aurais adoré, je crois qu'il a une série à ce moment-là. Et j'aurais adoré parce que je pense qu'il aurait été paternel avec moi et il aurait accepté mes qualités, mes défauts. Et j'espère ne...
Mais Hippolyte, le théâtre, c'est pas son...
Il en a fait, mais c'est pas sa passion.
Vous savez que je suis sur la conclusion de l'émission. Là.
Oui, ouais, pardon, on était reparti.
Excuse-nous.
On va faire le deuxième épisode.
Excuse-nous d'être des êtres humains qui s'entendons bien.
Alors, quand est-ce qu'il est le deuxième épisode? Parce que moi, j'ai déjà envie d'écouter.
Merci, Alex. Merci, Juliette. Merci, François.
Merci, Ramzi.
On se retrouve très bientôt.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.